Le débrief 100% hack, le podcast sur l'actualité du Havre en Ligue 1.
La panenka d'Abdoulaye fait que ce match est pour moi rentré dans l'histoire du club.
L'espoir, moi, enfin, objectivement, je ne l'ai jamais perdu.
L'unité de tout un groupe, tout un club, ça génère justement la chance qu'on nous dit.
Hello les amis, on espérait un hack vaillant et conquérant face à deux concurrents directs au maintien. Il repart avec deux petits points, ceux des matchs nuls face à Lorient puis contre Metz le week-end dernier. On fait le point sur ces derniers épisodes Ciel et Marine avec bien sûr mes camarades journalistes Luc Gallet du Courrier Cauchois et Mathieu Billot de Foot Normand. Salut à tous les deux.
Bonjour tout le monde.
Salut tout le monde.
Et à vos côtés aujourd'hui, quelqu'un qui a presque son rond de serviette hein, autour de cette table. Il s'invite même dans le générique du débrief, Florian Edouin, alias Floc. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toujours membre du bureau des Hackfans 1872, observateur attentif de la vie du club. Et puis c'est une première, c'est sa première avec nous, Corentin Vrel, bienvenue.
Bonjour à tous.
Vous êtes rédacteur pour Doyen, le média, anciennement Hackmen, site d'actu sportif tenu par des bénévoles passionnés. Et avec vous tous, eh bien, on revient sur cette sortie à Metz. On parlera aussi des filles du hack sur le podium d'Arkema Première Ligue cette semaine. Et surtout, on débat de la multipropriété. C'est parti pour le débrief 100% hack, saison 2, épisode 3.
On était habitué à faire mieux d'un point de vue technique. Je pense qu'on a vraiment manqué de justesse. On avait des choses assez claires. Quand on l'a bien fait, on a vu que c'était intéressant et que... Il y avait vraiment la place de faire mieux, mais malheureusement, quand techniquement on n'est pas au rendez-vous, ça nous limite beaucoup trop les choses. On manque de constance, mais c'est un petit peu ce qui caractérise notre début de saison.
Et pour débuter ce débrief, un pot pourri des mots de l'entraîneur Didier Digard à l'issue de cette rencontre donc du dimanche 28 septembre au stade Saint-Symphorien de Metz. C'était pour le compte de la sixième journée de championnat, match nul et vierge. C'est d'ailleurs le premier cette saison en Ligue 1. 0-0, le hack qui glane donc un petit point supplémentaire et pointe à la 15e place avec 5 points en compteur, autant que le barragiste Nantes 16e et Angers 17e en position de relégable. Messieurs, un avis sur ce match, on l'entendait dans la bouche du coach en conférence de presse, c'est peut-être le mot déchet technique qui est revenu le plus, je vous vois acquiescer, Corentin, c'est ça.
Oui, ouais. Des deux côtés d'ailleurs, que ce soit Metz ou Le Havre, il y a eu beaucoup de déchets techniques dans ce match et très très peu d'occasions. Je crois que Metz a zéro tir cadré, côté Havre, je crois qu'il y en a deux, donc on n'est pas vraiment sur un très beau match de foot. On a eu du mal à trouver des occasions un peu marquantes dans cette partie, il y a quelques petites bribes avec Reda Kadra notamment, mais... Ça a été compliqué ce week-end.
Compliqué, déchets techniques.
Ouais, déchets techniques, c'est indéniable. Ouais, je dirais que c'est un résultat plus que frustrant parce que c'est déjà frustrant de pas aller chercher des points quand on joue bien. C'est encore plus frustrant de ne pas jouer bien contre les équipes qui sont censées être à notre portée.
Ouais, qui n'avait pas encore gagné, qui n'a pas encore gagné.
Qui n'a toujours pas gagné.
Toujours pas. Après ce match nul. Luc, un avis sur ce match, un moment à retenir positif
Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à retenir de ce match? Moi, je m'interroge. Non, c'était franchement pas bon. Moi, je vais pas y aller par quatre chemins. C'était vraiment pas un super match. On s'est pas régalé du tout. Parlant de la purge, on se demandait après le match si ça en était une. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, ça en était une, clairement.
Mathieu.
Ah, je vais mettre un soupçon de positif parmi tous ces avis. C'est malgré la piètre qualité du match, ça reste un point. Et peut-être qu'en fin de saison, ça comptera.
Au moins le compteur tourne, ça.
Mmh. Ouais. Je pense que Floc est un peu plus exigeant avec son équipe.
Il suffit de peu, quoi. Enfin, c'est Metz qui était dernier à un point. On sortait. Certes, de peu de résultats, mais de matchs qui étaient plutôt engageants dans le contenu. Moi, je trouve que c'est une déconfiture totale. Allez, si on doit sortir un peu de positif, Mathieu Bodmer me dirait que je suis pessimiste. Soumaré qui tend à confirmer.
Qui confirme que c'est le maillon fort de l'équipe.
Un bon niveau de forme et voilà, une certaine percussion offensive, c'est quand même plutôt cool. Je dirais Nego, qui nous a pas habitué à des matchs de ce type-là aussi bien d'un point de vue offensif que d'un point de vue défensif. Et Kadra qui nous montre que quand il sera prêt, ce sera le facteur X.
Il peut être un joueur intéressant.
Voilà. Ouais, le reste, c'est acheté, quoi.
Ouais. Mmh. Après, c'est pas l'année saison dernière, on en a eu aussi des matchs comme ça de la part du hack. Ouais. Je pense pas, ce qui est aujourd'hui, ce qui diffère, c'est qu'on a eu un très bon début de saison dans le jeu.
Dans le jeu.
Pas dans les résultats, mais dans le jeu. L'enchaînement Lens, Nice, Strasbourg, Nice, ouais. Notamment la première mi-temps de Strasbourg. Vraiment des choses qu'on avait rarement vues de la part du HAC en Ligue 1. Et donc après, on attendait effectivement une confirmation contre des équipes qui prétendument jouent le même championnat que le HAC. C'est pas intervenu. Mais la dernière fois, je me rappelle, notre invité de la dernière fois, notre confrère Josué Cassé, avait mis cette interrogation. C'est est-ce que le HAC sera capable de pratiquer le même football contre un...
De hausser son niveau de jeu.
Contre un type d'adversaire voilà, différent qui va proposer autre chose. Force est de constater que non sur ces deux matchs-là. Force est de constater aussi que peut-être l'effet de surprise sur les 2-3 nouveautés un peu tactiques ou de composition d'équipe, bah, les autres ils bossent aussi, hein, voilà. Donc faut constamment se réinventer. Alors voilà, faudra voir sur les prochaines journées, notamment le match qui attend contre Rennes. Mais bon, voilà, faut.
Moi ce qui me rend d'autant plus décevant ce match-là, c'est qu'en face il y avait pas de danger quoi. Il y avait aucun danger à part Habib Diallo qui vient d'arriver et qui est pas encore totalement ses repères. Il y avait pas de quoi non plus trembler face à cette équipe messine qui n'a pas proposé grand chose dans le jeu aussi. Enfin, c'est.
Et on se dit que ça aurait même pu tourner carrément au fiasco avec l'erreur de Moridiao, notamment dans le but. Corentin, est-ce que vous...
Ouais, bah je dirais justement l'autre point positif, c'est le premier clean sheet de la saison quand même. Oui. C'est parce qu'on a été solide défensivement. Je pense notamment à la prestation de Gauthier Lloris qui a retrouvé son niveau. Par rapport à un début de saison qui était un peu moins bon que l'année dernière, mais l'erreur de Moridiao a fait coûter très cher au HAC. Malheureusement, il s'est rattrapé, donc ça a pu.
Ah puis ouais, oui, après un petit peu le bouillon quand même aussi. C'était un petit peu dangereux sur le flanc gauche quand même.
Ouais. Après la principale qualité de Yanis Zouaoui, je pense pas que c'est
offensivement.
Il est bien un latéral de son époque, ouais. Et il faut mieux qu'il ait le ballon entre les pieds que ce soit son vis-à-vis qui l'ait. C'est pas la première fois, mais. Bon, voilà.
Luc.
Malheureusement, on est un peu sur la lignée des matchs précédents où offensivement, le HAC n'est pas assez dangereux, le HAC ne cadre pas assez, le HAC n'arrive pas à se montrer très dangereux devant le but. Et malheureusement, ça s'est encore confirmé sur ce match-là. Samata, notamment, a montré beaucoup de limites, je trouve, sur un match comme celui-là, alors que pourtant, en face, pareil, c'était pas non plus une défense totalement rassurante, une défense qui avait déjà concédé pas mal de buts depuis le début de saison. Donc voilà, malheureusement, depuis Strasbourg, on est un peu sur la lignée, sur le front de l'attaque notamment.
Justement, vous dites depuis Strasbourg, un petit mot bah, du coup, au niveau du bilan, après 6 matchs et 6 journées, je le disais tout à l'heure, 5 points, j'ai pas calculé le nombre de points qu'on pouvait glaner, mais donc 6 fois 3.
Je crois que c'est 18. Voilà. Mes faibles compétences en maths me font dire que c'est 18.
À une vache près. Hein.
J'espère qu'on sera indulgent s'il y a une erreur, mais je crois que c'est ça.
À votre avis, peut-être un mot pour qualifier le début de la saison du HAC, Floc. Voilà.
Je dirais paradoxal parce que enthousiasmant dans le jeu et plus que décevant comptablement.
Ouais, un mot aussi.
Exactement ça. Sur le bilan comptable, 5 points, 6 matchs, finalement, c'est pas catastrophique non plus parce qu'on reste sur la dynamique à peu près d'un point par match qui permettrait de se maintenir. Mais au vu du contenu, on aurait mérité peut-être mieux.
Est-ce qu'on n'est pas un peu trop gourmand justement par rapport à ce qu'on a vu en tout début de saison sur les premiers matchs?
Il y a un décalage entre ce qui a été proposé sur le terrain et l'objectif de l'équipe et les moyens aussi de l'équipe, parce que enfin quand vous avez suivi un petit peu la prépa, le mercato aussi qui s'est quand même décidé un petit peu tard pour certains garçons, l'incertitude autour de garçons qui sont finalement restés, qui aurait cru que le HAC serait capable de proposer ce contenu là contre Lens, Nice, qui sont supposés des équipes supérieures, même si je pense que les cartes sont bien rebattues cette saison en Ligue 1. Et voilà, moi je pense pas que le HAC va pouvoir faire 34 journées en proposant le même contenu que contre Nice. C'est impossible. Ou alors c'est une saison extraordinaire et le public il va être gâté cette saison vraiment. Mais je pense qu'il y aura des hauts, des bas, des très bas. Voilà. Donc Lorient et Metz, et surtout Metz, c'est pas fou, mais encore une fois, c'est pas des défaites, c'est 2 points. Il faudra bonifier ça contre Rennes qui est pas en grande forme aussi. Voilà. Moi, je trouve qu'ils sont dans les clous. Voilà. Après, faudra voir comment ça peut se. C'est les prochaines journées qui vont être intéressantes, et notamment le match de Rennes. Voir si vous êtes capable de retrouver votre allant du début de saison, enfin des 3 premières journées.
Vous parlez des garçons qui ont pensé voir peut-être partir, qui finalement sont restés. Est-ce que Aruna Sanganté et Yacine Keshta ont manqué le week-end dernier Et on sait déjà qu'a priori ils seront là à la prochaine.
Je trouve que défensivement, vous défensivement, avez pas pris le but, donc défensivement, même si Amouna s'était bien rétabli après 2-3 journées.
Défensivement, non, mais Kechta, indéniablement, oui. Parce que je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, Luc. Samata n'a pas été bon, certes, mais il n'a pas été très alimenté. Moi, j'ai trouvé que c'est le milieu de terrain qui a été complètement défaillant sur Metz.
On est d'accord.
Et Yacine, dans le volume de jeu comme dans la qualité technique, il a forcément manqué.
Et c'est vrai qu'Yacine Kechta faisait partie des joueurs qui étaient titulaires à tous les matchs depuis le début de la saison.
Ouais.
Bon, ça veut dire, je pense quand même que Didier Digard estime qu'il est indispensable, en tout cas au coup d'envoi. Il finit rarement les matchs, mais il les commence tous. Donc, qu'il soit absent.
Vu ce qu'il a bas sur le terrain, c'est difficile pour lui de terminer les matchs.
Je pense que c'est un coup dur.
Ça, plus sa qualité quand même technique aussi.
Un petit mot juste sur Simon Ebonog, qui est un gars du club, qui enfin de la KV, je veux dire, qui voilà, il y a la, que Corentin un avis sur voilà, il était titulaire du coup de ce premier match.
Bah, c'est toujours une fierté de voir un Bézo démarrer mais être titulaire au début de match. Mais par contre, je trouve qu'il y avait trois profils un peu similaires au milieu de terrain, et c'est peut-être ça qui a manqué l'absence de Kechta justement, parce qu'il n'y a pas eu de profil technique, il y avait trois profils assez physiques avec Seco, Touré et Ebonog. Et du coup, ils n'ont pas réussi à assez alimenter l'attaque, je trouve.
Dans le débrief 100% hack sur Tendance Ouest, un extrait des chants entonnés dimanche 21 septembre. C'était dans les tribunes du stade Océane, liberté pour les ultras. En soutien aux supporters du Racing de Strasbourg, en tout cas une partie des supporters en grève depuis de longs mois contre la multipropriété. Alors multipropriété, un actionnaire propriétaire d'une galaxie de clubs. 48% des clubs de première division des championnats anglais, italien, espagnol et français sont désormais sous ce régime. C'est le cas pour Strasbourg avec Blueco, propriétaire entre autres également de Chelsea, et c'est le cas aussi pour le HAC avec Blue Crow. Hein, il y a une lettre de
pas
différence.
Facile, hein.
Il y a deux lettres en plus.
Ça peut faire toute la différence. Hein, il y a trois mois, le club doyen qui a changé de main avec l'arrivée au capital de l'américain. Donc Blue Crow est dirigé par Jeff Luno, également propriétaire du club espagnol de Leganés et des Mexicains de Cancun. Et donc avec cette actualité du Racing Club de Strasbourg où on va dire il se passe beaucoup de choses, on a envie de vous poser cette question. Est-ce que c'est une opportunité, cette multipropriété, ou est-ce que c'est un danger? C'est peut-être un peu tôt encore pour répondre à la question, mais Floc peut-être.
Oui, une opportunité, non, c'est un choix par défaut. Voilà. C'est même pas un choix, en fait. Hein. C'est quelque chose qui s'est présenté à nous par nécessité, et on doit composer avec. En tout cas, on a rencontré Jeff Luno, enfin les associations de supporters. On a rencontré Jeff Luno et son lieutenant, et tout ce que je peux vous dire, c'est que on a posé les limites et que globalement tout ce que Strasbourg est, c'est ce que nous ne souhaitons pas.
Et donc ces limites, c'est sans rentrer peut-être dans les secrets de la discussion, mais quelles
sont-elles? Elles ont été, on a fait un communiqué commun, elles ont été publiées, c'est tout à fait facile. Hein. C'est pas de dilution de l'identité havraise, c'est un mode de gouvernance indépendant, une autodétermination. On revient pas sur les couleurs, on revient pas sur la politique du club, on vampirise pas la KV, on fait pas des mouvements en faveur d'un club au détriment d'un autre. En gros, être satellisé comme l'est aujourd'hui Strasbourg, parce qu'aujourd'hui faut être clair, Strasbourg est la chose de Chelsea.
Le petit frère.
Si
on en prend Marc Keller,
c'est la chose, et j'emploie un terme élégant.
Voilà. Parce qu'on va le rappeler, ce qui a encore plus finalement mis le feu aux poudres ces derniers jours à Strasbourg, c'est cette signature du capitaine à Chelsea.
Oui, qui a annoncé en septembre pour la saison d'après, ce qui est assez particulier, on peut dire maladroit en termes de communication, même si dans le foot et le foot pro, faut pas être naïf, mais oui, ça a mis le feu aux poudres chez nos amis strasbourgeois qui étaient déjà bien certains remontés. Qu'est-ce qui vous a répondu du coup, Jeff Luno et son lieutenant, quand vous avez fixé les limites, les cadres à ne pas franchir?
Il nous a répondu qu'il était d'accord avec ça. Dont acte.
Donc maintenant, on verra ce qui se passera dans les...
On sera vigilant. Voilà.
Corentin, Floc disait un choix par défaut. Est-ce que c'est le sentiment aussi
Bah oui, on peut regretter qu'il n'y ait pas d'investisseurs locaux qui ne s'intéressent au club, mais il faut prendre acte de ça. Il y a pas... Vincent Volpé ne voulait pas continuer. Et Blue Crow était la seule solution un peu sérieuse sur la table, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, sur la multipropriété, personnellement, je suis très très réticent à ce système, parce que pour moi, un club de foot, c'est un ancrage local, c'est bien plus qu'une SASP, c'est bien plus qu'une entreprise. C'est un club avec des supporters, une âme, Et en effet, Strasbourg est désormais une équipe réserve d'une équipe de première ligue. C'est un club de première ligue bis. Donc, il n'y a plus d'ancrage local, il n'y a plus de système de formation. On a vu, par exemple, un transfert totalement lunaire d'un joueur de Chelsea qui est arrivé à Strasbourg puis reparti trois semaines après parce que ça convenait pas. Enfin, c'est... Et Marc Keller, en plus, est désormais un communicant au service de
Blocou. Le président de Strasbourg.
De Strasbourg. Ouais. Mmh.
Donc, franchement...
qui était là avant l'arrivée.
C'est ça.
De Blocou, qui fait partie des personnes qui ont redressé Strasbourg, qui était tombé en N2 ou en N3 suite à un dépôt de bilan, qui a contribué avec d'autres valeurs ou d'autres principes à remonter Strasbourg jusqu'en
Ligue 1. De CFA, quoi.
Ouais, voilà.
Je crois, CFA.
Bon, là, ils estimaient, je ne connais pas le dossier strasbourgeois à perfection, mais ils ont estimé qu'ils étaient au bout de leurs principes. Donc, du coup, ils ont été rachetés par les propriétaires de Chelsea. Il en est devenu ce qu'il est. Bon, j'imagine, du coup, Flo, que vous comprenez la réaction des ultras strasbourgeois, parce que mais ça a provoqué un peu une guerre des supporters entre, d'un côté, les ultras et de l'autre, le reste du stade qui...
J'ai pas l'impression qu'il y ait une guerre des supporters. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une différence de point de vue entre des supporters et des consommateurs. Les gens qui s'insurgent aujourd'hui contre la contestation des UB90 et des autres, hein, parce qu'il n'y a pas que les UB90.
Il y a quatre groupes, si je me trompe pas.
Comme si elle est blanc. Enfin,
on a mis en avant les UB90, mais il y a quatre groupes de
tous ceux qui sont associés à la fédération strasbourgeoise.
Strasbourg, qui sont concernés.
En fait, tous les historiques s'insurgent contre ça, et c'est plutôt des groupes factices ou le groupe de la femme de Marc Keller qui aujourd'hui s'insurge contre ça. Quand on voit les banderoles qui ont été déployées en face, la semaine dernière, c'est assez lunaire, quoi. Des capots avec des accréditations au cou, avec des sweatshirts Blocou Ultra, qui tendent une bâche à la police du club, bien imprimée par les soins de Marc Keller. Enfin, c'est ça qu'on souhaite. C'est ça qu'on souhaite. C'est ce qu'on appelle des supporters. Est-ce que ce sont des supporters quand on véhicule la propagande du club? Je crois pas. Et c'est ce que tous les groupes, je pense, aujourd'hui, libres et indépendants, veulent éviter.
Ouais, ça, c'est cette quête d'indépendance surtout qui est le maître mot pour les supporters et pour les groupes de supporters du HAC notamment.
Pour nous, aujourd'hui, on s'estime comme un organe du club. Nous ne sommes pas le club. Le club ne nous appartient pas, mais on est un organe du club. En temps normal, on doit pouvoir composer avec le club. Dans des temps plus conflictuels ou sur des sujets plus conflictuels, on doit être un contre-pouvoir avec cette liberté de ton. Aujourd'hui, je pense pas que Chelsea accepte d'avoir des contre-pouvoirs au sein de leur tribune.
Sachant que la culture du supporterisme en Angleterre est
nulle,
bien différente.
Enfin, nulle. Elle a été.
Je veux dire différente en tout cas, avec un passif aussi différent.
Voilà. En première ligue en tout cas, parce que c'est pas vrai dans les divisions inférieures. Voilà. Mais la lutte contre le hooliganisme a tué le supporterisme
l'augmentation du tarif des prix des places qui rendent non accessibles à une partie de la population.
Il y a une gentrification des tribunes, quoi.
Mais qu'est-ce qu'on répond, par exemple, parce que c'est l'argument en tout cas qu'on entend à Strasbourg, c'est comment vous pouvez gueuler alors qu'on a fini 7e, que le club revient en Coupe d'Europe, qu'on a investi 130 millions d'euros, je crois, qui a été le premier club qui a dépensé autant. Qu'est-ce qu'on répond, par exemple, si ça arrivait au HAC demain, grosso modo, on a envie de dire, ces supporters de Strasbourg qui manifestent leur mécontentement, on leur dit, mais enfin, tais-toi, regarde, le club, il est haut, et qu'est-ce qu'on peut répondre à ça si ça arrivait au HAC, si demain on disait, tiens, le HAC peut aller en Coupe d'Europe, mais ça passe par ce mode de fonctionnement-là.
Je pense que Corentin l'a très bien dit tout à l'heure. Un club de foot, c'est pas seulement des résultats, c'est pas seulement un match. C'est une institution, et la dilution de l'identité de l'institution, c'est quelque chose qui se négocie pas. Voilà, un club, on doit le respecter. On doit respecter les gens qui l'ont fait. On doit respecter les gens qui sont à l'œuvre, et on doit respecter son histoire. Je suis pas strasbourgeois. Ce qui leur arrive, ça me désole un peu, mais je pense que les gens qui aujourd'hui défendent Blocou, faudra qu'ils se souviennent de ce qu'ils ont fait quand dans 2-3 ans Chelsea se sera complètement désintéressé du club et l'aura torpillé et l'aura complètement dilapidé, parce que c'est ce qui va se passer. La question, c'est quand.
Est-ce que, finalement, je reviens un peu au Havre, est-ce que la situation est comparable avec un Blue Crow qui est propriétaire de clubs qui sont pas comparables à Chelsea, hein. Je pose la question, je dis pas que vous avez comparé les deux mais est-ce qu'on peut se rassurer entre guillemets en se disant finalement il y a voilà Leganés et Cancun des clubs de deuxième division qui sont
Je pense qu'on peut se rassurer au moins à court terme dans la mesure où le projet de base c'était pas de faire du HAC un club satellite d'un beaucoup plus grand club. Aujourd'hui Blue Crow, c'est une holding qui possède des clubs. Ce que Jeff Ludo nous a dit, c'est qu'aujourd'hui, il n'avait pas prévu d'un mode de gouvernance qui gérait l'ensemble des clubs, mais de laisser la possibilité à chaque club de s'autogérer en mettant en commun des ressources et des méthodes et des financements. Voilà. C'est ce qu'il nous dit, ça n'engage que lui. On verra si c'est vrai à l'avenir. Par contre, dès le départ, c'était admis. Blue Crow, c'est Chelsea. Et Strasbourg était le club satellite. J'insiste sur ce terme-là, le club satellite de Chelsea.
Ouais, là, la différence là pour Blue Crow, il y a pas de place forte, on va dire, parmi les clubs auxquels ils sont propriétaires. Enfin voilà, c'est même peut-être le HAC qui est le mieux classé en tout cas.
Même si on peut se poser quand même la question, si un jour les Ganes, aujourd'hui ils en sont loin, mais remontent en Ligue espagnole, la Ligue espagnole est quand même financièrement bien plus puissante que la Ligue 1 française. Je dis pas que ça se produira, mais on pourra se poser la question de attention à ce qu'il n'y ait pas ce rapport de subordination qui s'installe. Compte tenu de la différence de puissance financière des deux ligues.
Excuse-moi, Quentin. C'est quelque chose qu'on leur a dit. On veut pas des transferts dans un sens comme dans l'autre, au détriment d'un club, en favorisant l'un. Ça, c'est quelque chose qu'on leur a clairement dit et qu'ils, j'espère, ont entendu. Ce qu'on voit aussi, c'est que le modèle, le business, il est différent. Même à Leganés, quand ils étaient en Liga, tu vois bien qu'ils injectent assez peu d'argent, ils font plutôt du prospect, ils vont chercher des jeunes dans des divisions inférieures ou dans d'autres championnats pour essayer de les valoriser et je pense faire une espèce de plus-value à long terme. Mais j'ai pas l'impression qu'ils veulent vampiriser un club au détriment d'un autre.
Et en plus, ce qui est dit par Jeff Luno ici, c'est qu'il faut accroître les revenus pour avoir un budget plus important, alors que Blue Crow, en fait, comme l'a dit Flock, une fois qu'ils seront partis, le projet il est plus viable du tout. Enfin, l'année dernière, ils ont à 112 millions de déficit. C'est totalement lunaire. S'il n'y a pas de l'investisseur qui part, il n'y a plus personne pour reprendre ce club et avoir un modèle, un business plan sérieux.
Est-ce que les récents propos hein, dans la presse locale, interview donnée notamment à Paris Normandie de Jeff Luno, vous ont rassuré aussi? C'est-à-dire qu'il dit on prendra pas un club supérieur au HAC, on n'a aucun intérêt à aller chercher Liverpool et puis voilà pour comparer encore une fois.
Bien sûr, c'est rassurant, mais après ça reste que des propos. À voir dans les faits si ça se produit.
Pas mieux.
Et surtout pour revenir à l'origine du débat, on disait opportunité au danger. Alors si on opportunité, c'est qu'est-ce que ça peut apporter au HAC, hormis, et ce qui est déjà très important, le fait d'avoir viabilisé la présence du HAC en Ligue 1, d'avoir acheté une partie de la dette, compagnie. Mais maintenant, comment, en fait, ce système-là, il peut permettre au HAC de passer un step, parce que c'est vrai que Jeff Leno met des pistes, ouais, on peut mettre le marketing et tout, mais oui. Je trouve que aujourd'hui,
la data aussi.
La data qui est déjà très utilisée au HAC avant l'arrivée de Jeff Leno. Hein, je pense que s'il y a bien un club qui utilise la data en France, c'est peut-être le HAC avec notamment Julien Momont. Mais voilà, donc je me demande en fait, qu'est-ce que peut apporter le nouvel investisseur pour faire passer un step? C'est vrai qu'il met des pistes en fait sur le marketing. Moi, pour l'instant, ça me semble... Enfin, peut-être que je le comprends pas tout simplement, mais ça me semble assez flou. Je vois pas en quoi... ils peuvent apporter quelque chose de plus. Alors peut-être que c'est des domaines que je maîtrise pas et qui vont me faire mentir dans les prochains mois, mais j'attends de voir comment cet investisseur peut faire passer un cap au club.
La question que je peux poser directement, c'est est-ce que vous avez vu des changements justement au stade, par exemple, peut-être dans la manière de faire vivre l'expérience aux supporters, par exemple?
Vivre l'expérience supporter, ça me fait penser à Clément Calvet. Ça me fait penser à d'obscures expériences passées. Je pense pas que ce soit quelque chose qu'ils aient eu en tête de changer pour l'instant. Ils nous ont confirmé quand on les a rencontrés qu'ils maintiendraient l'équipe en place en laquelle on a confiance. Tout est pas rose, mais ça se passe quand même très bien avec Jean-Michel Roussier, Mathieu Bonnemer, Didier Digard. Donc ils nous ont dit qu'ils allaient travailler dans la continuité. Aujourd'hui, pour répondre un petit peu à ce que dit Mathieu, j'ai surtout l'impression qu'on a, comme tu dis, assuré la pérennité au moins à court et moyen terme du club. Mais qu'on va pas passer un cliquet, quoi.
Donc c'est ça, en fait. Faut pas minimiser ce qui s'est passé, hein. C'est très bien d'avoir racheté le club et d'avoir permis peut-être d'éponger ou d'assurer une partie de la dette et donc de pas avoir été inquiété sur la présence du club en Ligue 1 qui a été validé sportivement. Mais du coup, le step d'après, c'est... Est-ce qu'il y en a un, en fait ? Est-ce
J'en sais rien. Je sais pas.
En tout cas, sur le mercato d'été...
Il n'y en a pas eu.
Voilà. Enfin, c'est
oui,
le sentiment
qu'on
a. Il
n'y a pas eu de moyen supplémentaire, en tout cas.
Et voilà, il n'y a pas eu de moyen. Donc, on est sur le même...
En même temps, si t'éponges une dette et que t'as des moyens limités, tu vas pas investir par ailleurs.
La seule petite chose sur le mercato d'été, c'est que lui, il considère, même à Leganés, qu'il faut plus de visibilité à l'étranger pour Leganés et pour le HAC aussi. Et donc, on a vu pas mal de joueurs étrangers. Je sais pas si c'est un lien avec l'arrivée de Blue Crow, mais on a vu le premier Tanzanien, le premier Japonais. Est-ce que ça va permettre d'augmenter les revenus?
Mais est-ce que ça va permettre de faire venir des nouveaux partenaires, des nouveaux... Alors, c'est vrai qu'il y a toujours, quand vous avez des joueurs asiatiques, qu'ils soient japonais ou sud-coréens, des fois, même au niveau médiatique, on voit des fois des journalistes qui sont capables de les suivre sur plusieurs semaines, même plusieurs mois. Mais est-ce que ça, le fait de recruter ces joueurs étrangers, qui sont plutôt des bonnes pioches sportivement, en tout cas dans ce début de saison, est-ce que ça va permettre d'accroître les revenus du club? J'avoue que j'ai pas la réponse, je suis un peu sceptique. Enfin, j'ai pas vu ça dans d'autres clubs. Ça fait penser un peu aux écuries de F1, où les pilotes, pour avoir leur baquet, ils viennent avec leur propre sponsor. Donc vous êtes un pilote, je vais raconter une bêtise, français, vous venez avec Total comme partenaire, et là, tu prends le baquet, ça fait un peu ça. Mais je suis pas sûr que Ali Samata et Yumo Seko, ils soient venus avec leur partenaire à 5 millions d'euros.
Même si t'offres plus de visibilité, en quoi ça va nous dégager des revenus supplémentaires?
Ça sous-entendrait, en fait, que tu vas choper des partenaires de ces pays-là, en fait, un truc.
Ouais.
Mais,
C'est peut-être un travail sur le temps long. En tout cas, aujourd'hui, ça change dans les faits pas grand-chose, et on ressent pas de changement profond en ce début de saison.
Et c'est vrai qu'on verra aussi. Je pense qu'il y a une chose qui est importante. Floch l'a dit. Il y a confiance dans l'équipe. Roussier, Bodmer, Digard. Ils sont pas éternels au HAC.
Quid de l'après.
Et je pense que c'est la vraie question. On peut souhaiter pour le HAC qu'il reste le plus longtemps possible. Parce qu'encore une fois, je pense que le boulot qui a été fait au mercato est assez exceptionnel compte tenu des moyens à disposition, où il y en a aucun. Moi, je me pose la question de l'après, parce que là, vous avez franchement, quand vous êtes investisseur, mais vous avez récupéré un truc, vous avez pris des mecs, ils ont pris un club qui quand même se morfondait un petit peu en Ligue 2, qui en 3 ans, titre de champion, monté, maintien, ce qui est quand même des résultats assez exceptionnels. Je veux dire, il faut vraiment être fou pour dire, moi, je dégage tout le monde, je vais mettre mon frère, ma sœur à la place. Bon voilà, la question c'est si un jour, pour X raisons, Jean-Michel Roussier ou Mathieu Bodmer ne sont plus au HAC, qui nommeront, comment ils feront, est-ce qu'ils prendront des gens de leur galaxie? Parce que quand vous allez sur leur site, vous avez un organigramme et vous avez 25 personnes, il y a des entraîneurs, des data analystes, ça qui serait intéressant sur le long terme, voir comment ils font pour l'après.
Ah, il suffit de regarder ce qui se passe à Leganés et à Cancun. Alors Cancun, ils ont créé le club, si je dis pas de bêtises.
Oui, c'est un peu particulier.
C'est un peu particulier, mais à Leganés, ça a plutôt l'air de... d'être dans la continuité. Ils font rien de très farfelu, quoi.
En tout cas, je crois qu'ils ont changé cet été de directeur sportif, qui était le directeur sportif historique du club. Bon, il y a eu une descente, donc peut-être qu'il a aussi payé forcément les résultats sportifs. Et ils ont nommé un espagnol à la place. Donc ils sont restés dans le même circuit de football.
Par contre, ce que tu dis est vrai, c'est hyper important, c'est quid de l'après.
C'est le pion d'après, en fait.
Parce que c'est vrai que ces gens-là, on leur doit beaucoup de choses, énormément de choses, que le staff, il est génial, faut être clair. À notre niveau, c'est quand même une aubaine ce qui nous est arrivé. Et quid de l'après aussi, à qui ils vendront? Le jour où ils veulent perdre le club, à qui ils vendront? Parce que je pense quelu'un de local aurait toujours l'intérêt du club lors de la vente d'un prêt. De se poser la question, est-ce que en vendant à cette personne, j'assure la pérennité du club? Est-ce qu'un fonds d'investissement va se poser cette question-là? C'est pas des philanthropes, les mecs.
C'est toujours la même. Et d'ailleurs, quand on avait reçu Vincent Volpé dans l'intersaison, il disait bien que si ça se passait mal, ça lui retomberait dessus, en disant à qui t'as vendu.
Oui, indéniablement. Enfin, moi, Vincent Volpé, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Pareil, il nous aura amené énormément de choses. Alors, on s'attendait, parce que c'est un Américain, à ce que ça sorte du million à foison, mais ça n'a pas été le cas. En attendant, le club, s'il a mis le temps, il l'a fait remonter en Ligue 1 et il lui a fait bénéficier d'une partie de sa fortune personnelle, donc on lui est reconnaissant. Maintenant, l'interrogation du bilan Volpé, ce sera, est-ce que la vente que tu as fait à Blueco
a permis au club de passer ce fameux step?
Est-ce que c'était une belle conclusion? Et ça, pour l'instant, on le sait pas, parce que c'est
on est qu'au début de l'aventure.
Exactement.
Mais c'est l'objectif affiché par Jeff Luneau, justement, lorsqu'il y a eu la passation. C'était clairement l'objectif de franchir un palier pour le HAC. Alors maintenant, reste à savoir dans quelle mesure ça sera effectif. Mystère.
C'est pas inespéré, c'est surprenant. On sait d'où on vient, on sait quelquefois les montagnes qu'on a à franchir tout au long de la prépa, tout au long de l'été sur le mercato. Et on a un groupe et un staff qui en fait prend les vagues une par une des fois et continue à avancer. Et ça, c'est l'esprit, ça c'est une qualité dans le haut niveau très importante de toujours avancer. Et je suis très content pour le groupe, pour le club, pour le staff, parce qu'au quotidien, on est très rigoureux, très exigeant. Et franchement, je suis très content de voir qu'on est capable de ne pas attendre la 12e journée pour avoir 7 points.
Dans le débrief 100% AC, vous aurez peut-être reconnu Maxime Di Liberto, le coach de la section féminine, qui était sur un petit nuage samedi après la performance de ses joueuses. Victoire 3-2 face à Montpellier. Aidé Havraise, 3e d'Arkema Première Ligue cette semaine, derrière le Paris FC et l'OL, avec surtout 7 points glanés sur 9 possibles. Là, j'avais fait le calcul.
Ah, c'est
en
plus simple
avec
3 matchs.
Il y a 3 matchs.
3 fois. Oui, enfin bon, bref. Bref.
Léo, vous avez fait une filière littéraire, peut-être, Madame Célia.
Peut-être. Bon, voilà, un petit commentaire sur ce début de saison des filles. Alors, seulement 3 matchs pour le moment en championnat. Il y a eu aussi la Coupe de la Ligue avec une défaite face à Nantes. Mais. Corentin, ça se passe en tout cas beaucoup mieux que la saison dernière où les Havraises étaient. Voilà, c'était très compliqué.
Ouais, le début de saison a été compliqué l'année dernière avec un premier match contre Nantes qui avait été dur. Là, face à Strasbourg, il y a eu une petite déception avec le petit nul qui a été ensuite en plus enchaîné avec la quasi-élimination en Coupe de la Ligue face à Nantes. Mais ces deux victoires, ils apportent énormément de choses parce que je le disais avec Mathieu tout à l'heure. 7 points en Arkema Première Ligue, c'est un énorme matelas. Oh, parce que le maintien se joue environ à entre 16 et 18 grand maximum. Donc ils ont fait déjà une bonne partie du chemin, un bon tiers du chemin pour le maintien. Et franchement, on s'y attendait pas. Quand on voit la victoire à Marseille, ça a été dur sur le terrain, mais ils ont été la chercher en collectivement. Et franchement, on voit une belle équipe, un beau visage de l'équipe, avec en plus des jeunes formés au club. Dire, ouais. Et ça, c'est très important.
Ouais, voilà. C'est ça qui ça plaît, ça floque, de voir la petite chancelle FAFA marquer quasiment à tous les matchs.
T'as dit le nom magique.
Ah, c'est ça. J'allais le dire après, mais...
T'as dit le nom magique. Forcément, chansou, enfin voilà, ça plaît, quoi. Et j'ai bien aimé, d'ailleurs, que le club la mette en avant avec je sais plus quel baiseau de la cave pour la section masculine, mais ils avaient fait un double portrait.
Avec Melinda Mendy.
Ah oui, c'était exactement.
Avec les deux filles.
Ouais. J'avais trouvé ça super.
Ouais. Mm. Les filles des quartiers issues du cœur du Havre.
Bah, c'est bien, si t'as envie de parler au Havre, enfin, tu reviens à l'ancrage local, quoi. Tu reviens à la cave.
Sachant que, on en discutait aussi un petit peu avec Corentin, c'est vrai qu'en début de saison, on pouvait quand même se poser quelques questions. On précise que la section féminine n'est pas dans le rachat du club, donc elles font leur vie maintenant un petit peu en parallèle. Pas non plus beaucoup de moyens pour recruter. Et en début de saison, Maxime Di Liberto avait tenu un discours très clair. C'était que maintenant, Chancel FFA notamment, c'est plus une petite jeune du club. C'est même ça. Si elle doit avoir quel âge? 19 ans? 20 ans?
19 ans, ouais. Elle vient d'avoir
19 ans. Ça doit devenir un cadre technique, tout du moins, de l'équipe.
Elle est en train de le montrer.
Elle a clairement le niveau.
Et ce qui est fort, c'est parce que c'est fort de l'annoncer, enfin d'essayer, mais et de le montrer sur le terrain, je trouve ça soit très fort, parce qu'on vous met devant vos responsabilités et vous y répondez. Et ça, chapeau.
Parce que c'est la femme du match, là.
Ah, avec Zoé Stimnard quand même sur ce dernier match
qui plante un doublé.
Montpellier, ouais, qui met un doublé.
Non, mais du début de saison. Peut-être,
mais du début de saison, oui.
Non, mais sur ce match, elle est quand même présente sur. Elle a trois occasions en première mi-temps. Elle a une occasion barre, je crois, c'est en début de deuxième.
Oui,
elle est sur la passe décisive pour le troisième but.
Ah oui, non, elle est quasiment partout. Elle est partout. Mais pour moi, c'est une chose hors norme pour le HAC, même déjà, je trouve. Enfin, elle a un potentiel de toute façon pour aller dans un très grand club et dans très peu de temps.
Oui.
Je sais, il faut pas trop que je le dise.
Ça sera coupé au montage. Ça sera coupé, moi. C'est Flo qui s'occupe du montage demain matin, ça sera coupé.
Mais à mon avis, faut en profiter. Parce que vu son talent.
Elle a encore 2 ans de contrat et ce qui peut amener quelque chose de positif pour les Havrais, c'est qu'elle est très attachée au club.
Oui.
Et donc, pourquoi pas qu'elle reste un petit peu plus au HAC.
Ouais. Après, j'imagine que quand on a 19 ans, ça peut faire rêver aussi de se faire draguer par des grandes écuries entre guillemets d'Arkema Première Ligue. Bon, on sait pas.
Si que 19 ans, moi je connais pas assez son potentiel pour en parler, mais oui, on peut imaginer quand même qu'elle peut se faire encore un petit bout de temps au HAC. Même si elle a commencé très tôt, pendant le football féminin, c'est assez commun. Mais bon, après, faut jouer. Faut voir l'assurance, parce que si c'est pour
surtout qu'elle est en sélection en jouant au Havre, donc
si pour l'instant il n'y a pas péril de 20-25 joueuses, que ce soit à Lyon ou dans les clubs de première ligue anglaise, je sais pas si on dit première ligue pour le championnat féminin anglais, mais voilà, ça, si c'est pour cirer le banc, pour moi, ça sert pas à grand chose. Faut mieux emmagasiner le temps de jeu.
Elle a tout intérêt de toute façon à faire ses preuves encore au WAC, hein. Ça c'est indéniable. Et c'est pas la seule d'ailleurs jeune du club, parce qu'on parle aussi de Célestine Boisard en défense, qui assume clairement pour le moment en ce début de saison, qui a marqué d'ailleurs son premier but à Marseille aussi, de la tête, et qui mine de rien sur ses premiers matchs montre qu'elle peut clairement avoir une place dans cette équipe à Vraise aussi. Donc on a du talent et on a des jeunes qui sont capables d'être au niveau pour le moment de l'Arkema Première Ligue.
On parlait de l'avenir de la section qui donc ne fait pas partie de l'investissement de Blue Crow. Est-ce que c'est pas un peu étonnant, alors même si, d'accord, on parle de foot féminin, il y a moins d'argent aussi en jeu que chez les hommes, etc., mais qu'il n'y ait pas quand même ce fameux investisseur à vrai qui soit venu pour...
c'est Vincent Volpé.
Oui, c'est vrai que Vincent
Welcome, Vincent.
Non mais voilà, est-ce que... Je vous regarde tous les deux avec... est-ce que...
C'est le cas dans plusieurs clubs de première ligue qui sont à vendre, et Montpellier d'ailleurs va être vendu dans les prochains jours apparemment. À une multipropriété d'ailleurs. Et donc c'est le cas de plusieurs clubs, ils n'arrivent pas à trouver d'investisseurs. Parce que aussi, il faut le dire, le foot féminin n'arrive pas à décoller énormément. On le voit dans les affluences au stade Océane. Ça régresse, donc c'est assez inquiétant. Pourtant, on a des résultats et il faudrait attirer encore plus de gens pour pouvoir attirer des revenus et donc attirer d'un investisseur.
Après, le foot en France va globalement mal. En tout cas, le foot pro, il n'y a pas de droit télé aujourd'hui en Ligue 1. Faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des ressources pour le championnat féminin. Enfin, c'est le championnat de Ligue 1 qui doit tirer tout le monde derrière. La Ligue 2, le National, le championnat féminin. Comme à un moment, certains ont cru que ça allait se passer avec Media Pro, ouais, c'est ça. Tout s'est effondré depuis que vous êtes revenu 25 ans en arrière. Donc là, avant de trouver un modèle économique viable, mais c'est impossible. C'est fou. C'est encore bien qu'il y ait des personnes comme Vincent Volpé et d'autres certainement dans d'autres clubs de D1 et de D2 féminines qui mettent encore la main à la poche pour que ces projets-là, ils existent. Parce que là, on cite sur CLFAFA, Célestine Boisard, c'est des jeunes joueuses formées au club quand même. Oui. Donc ça veut dire que vous avez des éducateurs, que vous avez une structure, vous avez un centre de formation féminin pour leur permettre d'atteindre le plus haut niveau. Mais ça, tout ça, ça coûte de l'argent. Et en revenu, vous avez zéro. Donc il faut bien quand même qu'il y ait quelqu'un qui mette la main à la poche.
Eh ben, en tout cas, les filles, elles seront à Fleury samedi prochain. Contre, ce sera...
Et puis
ce sera sans Maxime Di Liberto, puisqu'il est suspendu. Donc,
sans sur le banc. S'il a le droit de se mettre 4 ans derrière...
Surtout si c'est au stade d'Abondoufle.
C'est Abondoufle.
Pas sûr que ça change une masse. Les consignes, les filles vont les entendre.
Bon, voilà. Donc ça, ce sera à Fleury. Puis le prochain match à domicile, c'est en tout cas en championnat, le 18 octobre, face à Saint-Etienne, qui est actuellement lanterne rouge d'Arkema Première Ligue. On termine comme d'habitude avec le tour d'horizon de la formation havraise. On va rester sur les filles puisqu'on en parlait à l'instant. Cette fois en U19, match nul pour les havraises, 2-2 ce week-end face à Valenciennes avec un doublé de Thaïs Gallet. Les filles réduites à 10 pendant... Je vous avais coupé le micro, par contre, pardon.
Ah
Mathieu.
Super, merci. D'accord, ok. Censure. Ah, ça se passe comme ça maintenant. Okay,
de toute façon, je t'aurais coupé au montage.
L'émission va durer 30 secondes demain.
Donc des filles qui étaient en tout cas réduites à 10 pendant toute la seconde période. Elles sont deuxièmes, toujours en U19 chez les garçons. Là, vaut mieux oublier le week-end pour les jeunes de GR Caram. Défaite 5-1 à domicile et face à la lanterne rouge Dunkerque. Des Havrais qui ne sont parvenus qu'à marquer qu'en toute fin de match. Ils sont quatrièmes à un petit point du leader Valenciennes. Donc c'est quand même assez serré chez les U17 chez les garçons. Toujours premier revers de la saison, c'était face au Minot du PSG à Poissy, score final 3-2. Les Havrais sont 6e, ils perdent une place au classement, puis on termine quand même avec une victoire, parce que sinon c'est pas drôle, hein. Coupe des réserves de Normandie, succès 4-1 face au grand Quevilly FC. Les Ciel et Marines qui sont leaders de leur poule, voilà,
surtout leaders de leur championnat,
voilà.
De R1,
oui.
Voilà. Avec l'objectif de remonter, qui est plutôt bien parti. Et les échos que j'en ai, c'est qu'il faudrait vraiment qu'il y ait une catastrophe pour qu'ils retrouvent pas le niveau National 3 la saison prochaine. Visiblement, très très au-dessus du niveau. Et ça fera plaisir à Monsieur Bonnemer.
Ouais. Je veux dire, le message était clair. Je crois.
Oui, monsieur, c'est rare de l'entendre comme ça, mais là, visiblement, il y avait un message à faire passer.
Et ben on verra ce que ça donne pour la suite. Un immense merci en tout cas, Floc et Corentin, d'avoir été à nos côtés pour ce nouveau débrief 100% AC. On se voit dès dimanche prochain au Stade Océane. Le coup d'envoi, ce sera 17h15 pour une rencontre face au Stade Rennais. Merci à Mathieu Billou, footnormand.fr. On y parle du 5e tour de la Coupe de France là dernièrement. Ballon d'or aussi, puisque vous êtes allé faire un petit tour.
Ouais, Ballon d'or. Allez,
vous,
oui,
ça commence à dater. Bah oui, mais bon. Oui, mais vous étiez.
J'ai eu le monde à Agnew dans la Manche ce week-end, je vais vous le dire tout de suite. Hein. J'étais niveau prêt, j'étais assez tranquille.
Bon. Et puis merci à Luc Gallet du Courrier Cauchois. Là, j'ai pas révisé de quoi on parle en ce moment.
Petit retour aussi Coupe de France. On avait notamment l'US Lillebonne qui était aux prises avec le FC Dieppe, notamment. L'US Épouville aussi qui avait un beau défi contre Évreux. Malheureusement, deux défaites pour nos représentants cauchois. Mais on a toujours Gonfreuil qui est toujours en lice. En coupe.
Et donc là, c'est à lire en kiosque, évidemment, à partir du vendredi.
Vendredi, tout à fait.
C'est ça. Et votre débrief 100% AC à écouter sur les sites de nos partenaires et sur tendanceouest.com, Deezer et Spotify. Fin de partie et à la prochaine.